Radio Django, la rose des vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, un sujet d'actualité, nous parlerons d'une crise politique qui secoue le Burundi depuis avril 2015. Alors, bonsoir Daniel, où se situe précisément ce pays ?
Entouré par le Rwanda au nord, la Tanzanie à l'est et au sud, et par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Burundi se situe dans ce que l'on appelle communément la région des Grands Lacs. Bien que ce soit l'un des plus petits pays du continent africain, sa population est plutôt dense, 10 millions d'habitants pour 27 834 km² contre 8 millions d'habitants pour 41 285 km²
ah, effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui déclenche cette fameuse crise au Burundi en avril 2015 ?
Alors en avril 2015, des Burundais manifestent contre le président Pierre Nkurunziza élu en 2005 et qui se présente pour un troisième mandat. Or, la constitution du Burundi, adoptée en 2003, lors des accords d'Arusha signés en Tanzanie, stipulait que seulement deux mandats consécutifs étaient possibles. En dépit de plusieurs recours, le président s'est représenté, a été reconduit pour un troisième mandat le 21 juillet. Si le premier mandat entraîne une véritable euphorie, son deuxième mandat s'est soldé par de nombreuses déceptions, mauvaise gestion économique, misère urbaine et rurale, atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Ce qui explique la colère des Burundais au Burundi comme à l'étranger.
Alors Daniel, qu'est-ce qui vous a conduit à aborder ce conflit burundais ce soir ?
Alors l'envie de tendre mon micro à un ressortissant burundais sur ce conflit qui finalement semble peu intéresser les médias et la communauté internationale. C'est comme si certaines régions du monde avaient disparu de la carte, notamment dans cette région des Grands Lacs.
Alors en Suisse, la communauté burundaise est-elle importante ?
Seuls 470 Burundais résidaient en Suisse en 2009. Je n'ai pas de chiffres plus actuels. Et avec la crise politique de 1993, beaucoup de Burundais ont choisi l'exil. Et ce chiffre doit être vu à la hausse.
Ouais, dans quel contexte sont arrivés les premiers Burundais en Suisse ?
Alors il y a eu trois vagues successives. La première vague remonte aux années 70. C'était en général des personnes venues pour faire des études. La deuxième vague se situe vers les années 88-89. Et la troisième vague remonte à 1993. Les deux dernières vagues correspondent à des moments de grande crise à caractère ethnique qui ont poussé des Burundais à migrer. La crise actuelle pourrait bien entraîner de nouvelles migrations.
Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Deo Negami Yimana. Bonsoir.
Bonsoir.
Je prononce bien votre nom ?
C'est presque ça.
C'est presque ça. Dites-le nous.
Negami Yimana, ça chante. J'ai une langue qui chante.
Voilà, c'est encore mieux. Merci.
C'est en Kiswahili, c'est ça ?
Non, c'est en Kirundi. Mais je parle Kiswahili aussi.
Deo, vous êtes enseignant, vice-président du FAR, le Forum des associations de Renan, et président du comité du Centre pour la promotion de l'écriture et de la liberté d'expression. Vous êtes d'origine burundaise. Dans quel contexte est-ce que vous êtes arrivé en Suisse ?
Ben, j'ai quitté le Burundi tout simplement parce que je ne pouvais plus supporter la situation qui sévissait à l'époque.
Ça remonte à quelle période ?
Qui se péjore malheureusement en 2000. Exactement.
Et quel regard portez-vous actuel sur la situation du Burundi ?
Moi, je ne porte plus mon regard seulement sur le Burundi, je porte mon regard sur toutes ces parties du monde, comme vous le disiez dans l'introduction, qui sont éternellement bafouées dans leurs droits, parce qu'il n'y a pas que le Burundi. Si vous regardez le monde entier, il y a des pays qui dominent les autres, et finalement... Après l'esclavage, après la colonisation, après le néocolonialisme, aujourd'hui, tout ça, à mon avis, c'est des séquelles de... C'est même pas des séquelles, c'est dû aux violences de... Comment dire ? De ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une manière pudique, la mondialisation.
Pourtant, si on revient au Burundi, les motifs de cette crise divisent. Certains Burundais pensent que l'affaire du troisième mandat présidentiel serait un prétexte.
C'est effectivement un prétexte parce qu'on a un président qu'on ne mérite pas. Ce n'est pas notre président. C'est un président qui... C'est un bailli, comme on aurait pu le dire au XVIIIe siècle en Suisse. C'est un président qui ne représente pas le Burundi, mais qui représente des multinationales.
Mais après avoir lu différentes analyses et dont des interviews de Burundais habitants en Suisse, j'ai pu lire en fait que ce qu'on contestait, ce n'était pas nécessairement la politique en place, mais plutôt la communauté internationale. Et il semblerait en fait que finalement le Burundi, comme le Rwanda, soit l'objet de convoitises autant par la Russie que par les Chinois.
Oui, tout tourne autour du Congo, la République démocratique du Congo.
Enfin, la région des Grands Lacs.
Il faut déstabiliser tous les pays qui entourent la RDC, dont le Burundi, pour exploiter à l'aise les matières premières, mais aussi poursuivre la politique de domination qui est l'apanage de certaines puissances, malheureusement.
Mais on a deux discours, deux tendances. Finalement, qu'est-ce que vous pourriez proposer aux Lausannois pour mieux comprendre en fait ce conflit ?
Alors, il a, en surface, c'est bien sûr un conflit politique, parce qu'on ne va pas dire que ce sont les étrangers qui nous imposent de nous battre entre nous. C'est une affaire d'abord entre les Burundais, mais la communauté internationale, moi je ne dirais pas d'ailleurs la communauté internationale, la communauté internationale, elle est là pour nous aider. Je sais qu'il y a des gens qui plaident pour que les choses s'améliorent, mais par rapport aux appétits gloutons des acteurs de la mondialisation, le Burundi est en train de sombrer dans la violence, malheureusement. Voilà, c'est le Burundi, c'est d'autres pays, en Afrique comme en Asie. Mais c'est vrai qu'il nous incombe aujourd'hui de dire stop à ce qui nous divise.
Mais est-il juste de penser que ce conflit est de nature ethnique ? Un article est sorti
aujourd'hui. Il n'est pas juste. Non, il n'est pas juste. Ce conflit n'est pas ethnique, parce que dès le mois d'avril 2015, les Burundais, toutes les ethnies confondues, se sont mis dans la rue. Ils sont descendus dans la rue pour dire non au troisième mandat. Et moi, je les soutiens toujours.
Et le président est binational. Enfin, il est Tutsi et Hutu.
Il est Hutu et Tutsi, entre guillemets. Ça ne veut rien dire. C'est un discours colonial belge, pour moi, qui ne veut rien dire.
Qu'est-ce que vous entendez dire par là en disant que c'est un discours colonial belge ? Un clivage qui a été imposé quand
oui,
on a imposé ces
oui,
fameuses
oui,
frontières ?
Oui, parce que les Belges, à l'époque, ils voulaient installer une politique coloniale parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils allaient partir. Et puis, ils ont inventé des clichés, hein, que les Burundais, certains Burundais dont je fais partie sont intelligents, donc de taille élancée. Mais moi, ici, quand je demande aux gens, aux Suisses, si je suis Hutu ou Tutsi, tout le monde est à côté de la plaque.
De toutes les manières, en fait, ce n'est pas le cœur du sujet. Ce qui serait plutôt important, c'est de rétablir une forme d'ordre politique.
Exactement.
Et finalement, de changer de type de gouvernement.
Tout à fait.
Et quand on parle, en fait, des milices en place, qu'est-ce que vous savez, apparemment, qui, justement, elles, s'en prennent peut-être à l'une des personnes considérées d'une région ou d'une autre.
C'est des milices, effectivement,
du pouvoir.
Les financements, on ne sait jamais. C'est certainement financé par de l'argent sale, parce que le peuple, pour le moment, il est en train de souffrir de faim, de soif, de pauvreté. C'est de l'argent sale parce que le Burundi n'a pas d'argent pour se faire la guerre.
Et face à ce drame, comment réagissent les diasporas, notamment en Suisse ?
Alors, les diasporas, elles réagissent très, très énergiquement.
Quels moyens ?
Et à gauche, à droite, on se mobilise avec notre pauvreté, parce qu'il faut savoir aussi que les migrants ne sont pas riches, mais qu'à gauche, à droite, dans le monde entier, les diasporas donnent plus d'argent dans leur pays d'origine que toutes les aides au développement.
Mais par rapport au conflit, se mobiliser, ça veut dire envoyer de l'argent au pays.
Oui, ils nous envoient de l'argent.
Mais qu'est-ce que cet argent permet ?
L'argent permet de prendre en charge les personnes blessées. Ça permet aux familles endeuillées d'enterrer leurs morts. Ça permet aux manifestants de se mobiliser aussi. Moi, je ne le fais pas, mais ça se fait. pour maintenir la flamme de la manifestation, parce que quand on veut une révolution, il faut malheureusement des victimes, et puis il y en a qui sont prêts à mourir pour la patrie.
Mais comment est-ce qu'on vit un conflit quand on est à distance, justement ?
C'est déchirant. Les gens qui me connaissent savent que je dors plus. Déjà, je ne dormais pas auparavant, mais aujourd'hui, mon sommeil s'est complètement détérioré. Je ne dors plus. Je pense au Burundi qui souffre, aux victimes de la situation. Je suis aussi un malade qui certainement a besoin d'être appuyé quelque part.
Mais par contre, comment est-ce que vous, qui êtes ici dans une zone de confort, pouvez appuyer justement vos proches et vos amis qui sont à l'étranger ?
On se mobilise, on crée des associations, c'est pour cela
Mais
que...
Mais quelle est votre marge de manœuvre, justement, en étant à distance ? C'est la grande question qui se pose. Parce qu'on pourrait imaginer peut-être que vous avez tous envie d'aller au Burundi pour soutenir en fait ce qui se passe, mais vous
on
ne pouvez pas.
On ne va pas faire la guerre parce que...
Pas pour faire la guerre, pour soutenir, j'ai dit.
Oui, pour soutenir, bien sûr. On soutient les manifestants, on soutient la société civile burundaise par la force et de la raison, et non la raison de la force.
Et est-ce que vous pensez que la communauté internationale dont on a parlé tout à l'heure devrait être beaucoup plus réactive par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Burundi ?
Proactif. Pas réactif, proactif, parce que malheureusement, c'est aussi une communauté impuissante. Parce que pour moi, quand on parle de la communauté internationale, c'est l'ONU, dont l'autorité morale a toujours été bafouée depuis qu'elle est là, par les Nations Unies, plutôt par les États-Unis, par la France, tous ces pays qui se disent démocratiques, ils ne font rien qu'appauvrir le reste du monde entier.
Et donc, ce qui veut dire que la responsabilité de protéger, en fait, qu'il y a une norme internationale...
Elle n'existe pas.
Elle n'est pas
regardez
appliquée.
Regardez ce qui se passe en Irak, ça n'existe pas. Ils ont le droit d'ingérence, ils ne l'utilisent pas. Le droit d'ingérence, moi, je le soutiens. Tous les pays, tous les leaders qui font mal à leur population, ils devraient être exclus et punis par la Cour pénale internationale.
Et simplement. Au niveau de l'Afrique, on sait que certains pays se sont mobilisés justement pour éviter cette crise.
Oui,
Un dernier mot à ce sujet.
Je pense au Sénégal, je pense au Burkina Faso. Ça, ce sont des modèles de pays qu'on doit absolument auxquels on doit emboîter le pas.
Mais est-ce que vous avez une forme de soutien indirect ?
Je ne sais pas, mais les choses sont en train de changer. Ça ne peut pas continuer de se faire comme avant.
Merci beaucoup, Déo, de nous avoir parlé de ce pays, de votre pays, le Burundi. Et on rappelle que la crise du Burundi nous rappelle quand même que les médias gardent une responsabilité dans la couverture de certains sujets, une manière de dire non au silence et à l'indifférence, touchant notamment cette région et toutes ces régions qui touchent les Grands Lacs. Merci beaucoup, Daniel, pour
la radio Django vient de faire la différence aujourd'hui.
Et bien voilà, c'est parfait, on en est ravis. Merci beaucoup, Déo. Et tout de suite, on finit ce sujet avec une ambiance burundaise, avec de la musique du pays.
Alors, ce tambour burundais, le son du tambour burundais, je l'ai proposé parce que c'est le symbole du pouvoir. Et on va expliquer aux gens toute la symbolique le 2 avril à Burundi, parce qu'on invitera des tambourinaires pour détendre l'atmosphère de l'opinion burundaise vivant en Suisse.
Et découvrir la culture du Burundi.
Exactement.
Merci beaucoup, Déo.